nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
André Malraux confie. Il n'y a pas un grand peintre que nous connaissions qui n'ait pas admiré Rembrandt. Il y a que c'est un grand coloriste, que c'est un peintre de génie. Mais il n'y a pas que ça. Et pour découvrir toutes les autres qualités que Malraux reconnaît à Rembrandt, Canal Académie vous propose de découvrir des extraits du film de Jean-Marie Drault, intitulé « Journal de voyage avec André Malraux, à la recherche des arts du monde entier ». Cette retransmission vous est proposée par Claude Carrez et Radio Chrétienne Francophone de Lyon, un partenaire de Canal Académie. Laissez-vous conter l'œuvre de celui qui bouleversa la technique du clair-obscur en inondant ses toiles d'une lumière intense et hypnotique. Aujourd'hui, partons en Hollande avec Rembrandt. Dans une Hollande du XVIIe siècle, en plein bouillonnement pictural, laissez-vous conter l'œuvre de celui qui bouleversa la technique du clair-obscur en inondant ses toiles d'une lumière intense et hypnotique. André Malraux vous prend la main et vous voici déjà dans les ruelles d'Amsterdam. Au cœur du quartier juif, pénétrez dans l'atelier de Rembrandt, mais derrière vous, n'oubliez pas de refermer la porte, le maître de la lumière peint dans l'ombre. Dans cette retransmission, vous entendrez également Jean-Marie Drault évoquer les longues heures qu'il a passées avec André Malraux.
Nous partons aujourd'hui, on vous l'a dit, en Hollande, sur les traces de Rembrandt. Cinquième partie de notre série sur André Malraux, cet été sur RCF, à la découverte des arts du monde entier. Nous avons commencé, première émission, avec l'anniversaire, les 50 ans du ministère de la Culture, avec Marie-Mone de Saint-Pulgent. Puis, deuxième émission, le mystère Malraux à travers sa voix, ou l'orthographier comme vous voulez, son sens du dialogue, ses engagements. Nous avons enchaîné pour la troisième émission avec les apprentissages du regard. Son engagement, encore, dans le film Espoir, Sierra de Teruel, le prix Louis de Luc, 1939-45, et le début du journal de voyage avec Jean-Marie Drault. Nous avons enchaîné avec la quatrième émission, Promenades imaginaires à Florence et Venise, et aujourd'hui, donc je vous le répète, en Hollande, avec Rembrandt.
Plus qu'avec n'importe quel autre peintre, Rembrandt nous oblige à cette lente, à cette patiente plongée dans un monde pictural qui, pour la première fois en Europe, comme l'écrit André Malraux, va toucher à l'âme.
Et on a un cinquième film, toujours de 52 minutes. Et celui-ci, je dis que c'est le cinquième, mais on hésitait tout à l'heure à le citer. Je crois que c'est celui qu'on pourrait garder, hein, je crois. C'est peut-être le plus important, vous allez nous dire pourquoi. Promenade imaginaire dans la Hollande avec Rembrandt. Et il oui. y a cette fameuse citation, là, cette lente et patiente plongée dans le monde pictural de Rembrandt, dont l'art, pour la première fois, va toucher à l'âme. Toucher à l'âme. Oui, ça conduit Malraux à évoquer les grands moments de la vie du peintre, etc., et à analyser comme il sait le faire.
Oui, alors je crois que c'est un film à plusieurs degrés. Tout d'abord, bien entendu, c'est la lecture d'une œuvre et de la vie d'un homme par Malraux. Il y a là un dialogue extrêmement fort, extrêmement personnel et presque une sorte de... Il y a comme la création d'un sentiment de fraternel, je dirais. Il y a entre Malraux et Rembrandt, d'abord parce que la vie de Rembrandt, elle aussi, comme la sienne, est placée sous le signe de la mort. Enfin, Saskia, sa femme, meurt très jeune. Titus, son fils, meurt aussi. Je veux dire que la vie de Rembrandt est une vie placée sous le signe de la mort, de la solitude et de la... Mais une autre raison pour laquelle ce film me touche particulièrement, c'est que c'est le premier que nous avons tourné après la mort de Malraux. C'est-à-dire que il est mort fin novembre et je crois que quelques jours plus tard, donc dans un espèce de brouillard, on a commencé à tourner en Hollande et cette mort de Malraux nous laissait triste, mais plutôt orphelin que triste. Et très vite, en même temps, en tournant ce film, je me suis rendu compte, une fois de plus, que l'audiovisuel permettait d'obtenir une sorte de victoire sur la mort, puisqu'il était mort, mais il était toujours là. Et ce qu'il nous avait dit de Rembrandt nous aidait à faire ce film. Et c'est un peu comme s'il avait été, bien que mort, avec nous, à La Haye, à Amsterdam. Et à cet égard, ce film me touche particulièrement parce que c'est le premier film où l'absence est compensée par une extraordinaire proximité de Malraux, à la fois parce qu'il avait écrit sur Rembrandt, mais aussi parce qu'il nous en avait dit devant la caméra. Donc c'est un peu les deux. Et puis ce dialogue Malraux-Rembrandt est tout à fait bouleversant. Tout à fait bouleversant.
Pendant plus de 2 ans, écrivez-vous, je l'ai suivi et souvent retrouvé en Hollande, en Espagne, au Mexique, en Grèce, en Afrique, en Inde, à Haïti, Japon, etc. Sur ses pas, 2 fois, j'ai fait le tour du monde des musées, des cathédrales et des temples. En prononçant son nom, les portes les mieux verrouillées se sont ouvertes. Ses amis lointains m'ont parlé de lui avec émotion et ferveur. Tout au long de ce voyage initiatique, il m'a semblé que Malraux m'aidait à mieux déchiffrer les mystères de l'art. Depuis longtemps, certes, j'aimais la peinture, mais grâce à lui, soudain, je me suis retrouvé au centre d'une gigantesque caverne d'Ali Baba, pleine de sculptures, retables, rouleaux asiatiques, miniatures, fresques, et venue de l'ombre, reconnaissable entre toutes, une voix, la sienne, magnifiait chacune de ses œuvres, puis, au-delà des dates et des géographies, les reliait entre elles par d'imprévisibles liens de parenté qu'il était le seul à leur découvrir. Donc on imagine un peu, c'est difficile à imaginer, hein, mais on imagine quand même l'ambiance, le climat, l'état d'esprit dans lequel vous étiez, et en particulier pour ce fameux Rembrandt en Hollande.
Oui, mais ça on le vérifie aussi, vous savez, quand on est dans la solitude d'une salle de montage et tout d'un coup, on appuie sur un bouton, hop, la pellicule passe, on entend la voix, on voit l'image, on revient en arrière, on choisit. Parce que ce genre de films, bien entendu, c'est l'évidence, enfin, ce sont des films qui s'écrivent, si je puis dire, dans la salle de montage. C'est là où l'image se combine avec le son, très avec construit, la musique, hein, avec les textes. Et c'est là aussi où on vérifie à quel point ce qu'il nous avait dit était à la fois éclairant, mais je dirais aussi rassurant, parce que à tout moment, on avait auprès de nous le témoin idéal, je dirais. L'homme grâce à qui, non seulement les portes s'ouvraient, mais une fois la porte ouverte, on y voyait plus clair grâce à lui. Et ça, évidemment, c'est extrêmement rare.
Avant d'évoquer Rembrandt de façon plus approfondie, revenons un instant, si vous le voulez bien, sur la démarche de Jean-Marie Drou. On passe ici insensiblement
oui.
d'un lieu qui est évidemment extrêmement important, parce que là, donc, on est dans la verdure, là, c'est formidable.
Ah, ici, à Chatou. On n'est pas en Haïti, là.
On est à Chatou. Hein.
Mais on n'a pas les moyens d'aller faire l'enregistrement en
Haïti. Mais on est bien à
Chatou,
dans cette oasis-là.
Oui, oui.
Alors, toute proportion gardée, Jean-Marie Drou avec Malraux, c'était le Salon Bleu des Villemorin,
oui.
à Verrières-le-Buisson. Et alors, j'ai lu quelque part ceci, et ça m'intéresse beaucoup, 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 la relation que vous avez eue tous les deux. C'est Jean-Marie Drou qui parle, hein. Je me permets de le citer en sa présence. Je n'emmenais pas large. Je suis resté silencieux, attentif à l'envol des mains, au feu d'artifice de ses paroles, à l'élévation de la température ambiante. Inoubliable. L'œil qui ne cherchait pas, mais voyait. Et alors, un petit peu plus loin. S'il m'avait parlé dans une langue inconnue, chinois ou sanskrit, ma fascination n'aurait pas été différente. Il émanait de lui un rayonnement, une énergie que j'ai parfois retrouvée chez certains Ungans, les prêtres vaudous, en Haïti, ou encore en Inde, devant des brahmanes, le torse nu, au regard fixe, qui me traversaient de part en part. Puis alors vous citez à ce moment-là Tadao Takemoto, lors d'un voyage au Japon, qui vous dit « il est le seul gourou occidental ». Et vous ajoutez « étrange appellation pour un agnostique ». Et citant un autre personnage important dont l'intelligence, c'est l'intelligence fait homme, Édouard Berle, qui disait « Malraux agnostique, oui, mais obsédé par le divin ». Alors cet homme obsédé par le divin, cet homme qui va être fasciné, enthousiasmé, blackboulé, je ne sais plus quel terme vous utilisez, par ces fameux Ungans ou ces artistes d'Haïti, et ce fameux coup de soleil, ça va même bien au-delà. Du coup de soleil. Que oui. dire de ce de ce passage d'un salon bleu à Haïti, une exposition en ce moment, pendant plusieurs mois, déjà tout l'été, puis encore après, j'espère, donc au musée du Montparnasse, lieu préservé. Vous vous êtes battu quelques-uns avec lui pour que ça survive et qu'on n'en fasse pas une tour. Hein
oui.
On n'a pas besoin de tour, parce que Malraux, c'est la verticalité, vous dites quelque part. Donc on n'a pas besoin de tour, on l'a déjà avec lui. Donc Haïti, Malraux, il faudrait qu'on en dise un peu plus.
Ben, je crois...
Ça a été une découverte, malgré tout.
Oui, je crois que il y avait chez Malraux une dimension prophétique. C'est-à-dire que quand je tournais avec lui...
Ben oui, prophète, gourou, etc. On ne sait pas quel mot lui donner.
Oui, on ne sait pas, parce que c'est un peu inhabituel et peu français, je dirais.
Bien sûr.
Je dirais que les problèmes qu'il a avec les intellectuels français, c'est que... moi qui ai passé ma vie très loin de la France, j'ai vécu 10 ans à Rome, à la Villa Médicis... J'ai tournicoté autour de la Terre pour faire mes films. J'ai vécu 3-4 ans comme conseiller culturel à Athènes. Bref, je suis le contraire de la plupart des Français qui sont souvent casaniers et qui adorent voyager, mais qui adorent voyager, si j'ose dire, dans des institutions... où tout est préparé à l'avance pour qu'ils ne soient pas en relation avec le pays où ils vont.
Il y a vous avez écrit le dictionnaire vagabond, c'est pas pour rien.
Oui, c'est pas pour rien, mais en même temps, j'ai eu la chance de vivre longtemps avec les autres. Voilà, je dirais ça.
Et d'aller au contact.
Oui, et je dirais que Malraux me dit, au cours des 24 heures d'enregistrement que nous avons fait ensemble, enfin de dialogue, il dit, je lui parle de ses relations à un moment avec Mac Jacob, qui ont été extrêmement importantes, car Mac Jacob, c'est un peu celui qui ensemence cette jeunesse à laquelle Malraux appartenait, et qui les pousse vers les ateliers des peintres, vers Picasso, vers Gris, qui étaient ses amis. Et Malraux me dit, oui, la culture, certes, les livres, bien sûr, mais chez moi, ce fut aussi la culture du voyage. Et je crois qu'on ne comprend rien à Malraux si le personnage officiel, le ministre, l'homme en smoking, si je puis dire, nous fait oublier qu'il a été avec et grâce à Clara, sa première femme. N'oublions jamais le rôle extrêmement important de Clara, qui est une cosmopolite de naissance et de nature, qui l'entraîne à Florence, premier voyage qu'ils font en amoureux ensemble, ce qui amènera Malraux et Clara, d'ailleurs, à donner à leur fille le prénom de Florence. Je salue Florence en passant. Et ils vont à Prague, ils voyagent, et il va faire un tour du monde, il va aller au Japon, il va aller en Inde. Et comme, encore une fois, cet homme est un œil, une sensibilité, avec en plus une dimension prophétique, le gourou dont parle Tadeo Takemoto, ce qui veut dire que, au lieu de s'enfermer dans les bibliothèques comme le font les grands historiens de l'art, et qui dans le fond passent leur temps à comparer ce qu'a écrit M. Tartampion avec ce qu'a écrit M. Tartampion bis, lui, il a ce contact que seul donne l'immersion, je dirais, dans la vie et dans la ville des autres.
C'est de l'immersion et de l'imprégnation, hein, ça.
Voilà, le mot clé, c'est ça, c'est imprégnation. Et comme il a, nous en avons déjà dit un mot, mais cette mémoire inouïe, il a donc la possibilité, dans cette sorte d'ordinateur mental qu'est son intelligence, d'appuyer sur des touches invisibles qui lui permettent de mettre en relation des œuvres que séparent des siècles, voire des milliers de kilomètres. Et il est, à mon sens, le seul à avoir réussi ce travail qui, bien sûr, dérange ces messieurs de la mise en ordre. Et ces personnages officiels de l'histoire de l'art qui passent leur temps à coller des étiquettes et à nous expliquer dans leur cartel que nous sommes en face d'une femme qui prépare le café alors que nous sommes capables de voir que le tableau représente effectivement une jeune femme qui verse du café. Mais ils tiennent à mettre en dessous « femme versant du café très dans une tasse ».
C'est pas redondant. Hein.
Bon, il est évident que là, on est loin de la prophétie.
Même si on n'a rien contre le café.
Si on n'a rien contre le café, on vient d'en boire café haïtien, d'ailleurs.
Ah oui, d'accord. Bon. Oui, oui.
Mais je veux dire qu'avec Malraux, moi, ce qui m'a fasciné, c'est j'ai déjà parlé de son œil, de la qualité de son œil, mais
Vous le dites, tiens, excusez-moi, je vous interromps. Oui. Vous dites personnellement, et c'est le 19 janvier 1974.
Oui.
Ça, c'est drôlement
Conduit par Jacqueline Baudrier, oui.
Personnellement, ce sont les yeux d'André Malraux qui m'ont particulièrement intrigué, subjugué.
Oui, oui.
Par leur intensité, un magnétisme rare, un pouvoir d'envoûtement, un je ne sais quoi de doux, de triste et d'un peu fou. Et j'imagine que dans les temps anciens, un prophète, un nabi devait posséder ce don de tout voir, décrypter, mémoriser, reliant entre visage, forme, image, vous le disiez il y a un instant, que des milliers de kilomètres ou de siècles séparent.
Ça, c'est le vagabond. Ça, c'est le dictionnaire vagabond.
C'est dans le dictionnaire.
Oui, 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 c'est ça. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
Vous êtes d'accord avec ce que vous avez écrit ?
Oui, oui, oui. Je suis non seulement d'accord, mais je signe des deux mains. Bon. Parce que c'est là, je trouve, où Malraux est absolument unique. Et je voudrais profiter de notre rencontre et de notre dialogue pour bien dire que très souvent, quand on lit des livres sur Malraux, cette dimension de sa relation avec l'art est escamotée, voire falsifiée. Je crois ne pas me tromper en disant que dans le très beau livre d'un Jean Lacouture sur Malraux, il doit y avoir 3-4 pages sur les relations avec l'art, sur 340-345 pages.
C'est vrai que Malraux est multiple, mais
oui,
quand même.
Oui, mais quand même, parce que... ou bien, chez d'autres, que je ne citerai pas, on dit il a d'abord écrit des romans, puis fatigué d'écrire des romans, il se tourne vers l'art.
Ce qui est faux.
Ce qui est complètement faux. Et je ne veux, pour le prouver, que citer une phrase qu'il écrit en 1922. Il a 21 ans. Et son copain Galanis, qui est un graveur et peintre grec qui vivait à Montmartre, fait une exposition et il demande à Malraux, qui est son copain, un mot d'ailleurs que Malraux adorait et qu'il répète très souvent dans les 25 heures d'enregistrement que j'ai fait avec lui, il lui demande une préface. Et dans cette préface, qu'écrit Malraux ? Il dit « En art, nous ne voyons, nous ne comprenons que par comparaison. Une sculpture grecque sera mieux vue si on la place à côté d'une sculpture égyptienne, voire une sculpture asiatique. » Ce qui veut dire que...
Il ajoute même « mieux vu que par la connaissance de 100 statues grecques ».
Voilà.
Ça va jusque-là.
Ça va jusque-là.
C'est incroyable.
Ce qui veut dire qu'à 21 ans, toute la procédure, je dirais, par laquelle il
est déjà là,
est en place. Il a 21 ans.
On ne le dit jamais, ça.
Et on ne le dit jamais. Si, il y a quelqu'un, c'est Brincourt. Brincourt a beaucoup insisté dans ses écrits sur Malraux, parce que Brincourt a écrit des textes magnifiques sur
André
Malraux.
Brincourt.
André Brincourt. Mais il est à peu près le seul, parce que on aime bien cette idée qu'il écrit des romans et puis il fait la guerre d'Espagne. Si on se réfère par exemple au Conquérant, qui est une œuvre des années 30, il écrit cette phrase extraordinaire « En art, le temps ne compte pas ».
Eh oui, en art, le temps ne compte pas. Le temps, mais le lieu. Nous allons nous rendre maintenant à Amsterdam. En effet, les artistes, souvent, font une rencontre exceptionnelle avec un lieu. Privilégiez presque toujours cette rencontre, dont le hasard ne rend compte qu'en partie. Il n'est pas surprenant que le sommet de l'œuvre gravée de Rembrandt représente un calvaire. Ces rencontres sont données par la recherche lucide, une capture soudaine, l'aventure ou la chance. Renoir s'arrête près de la Méditerranée. Rembrandt va se loger dans le ghetto d'Amsterdam. Gauguin part pour Tahiti. Le Greco rencontre Tolède. Elles apportent tantôt un heureux moyen d'expression, tantôt une incarnation. Mais elles sont aussi, plus rarement, celle de la part souterraine de l'artiste ou sa part d'Arcadie et plus rarement encore celle de part semblable de l'humanité, d'une permanence humaine évidente ou mystérieuse, d'un sentiment fondamental ou d'un rêve toujours vivant, la nativité de Giotto, le printemps de Botticelli, les pèlerins d'Emmaüs de Rembrandt, la kermesse de Rubens, la nuit de Michel-Ange, le Saturne de Goya, la rencontre d'Eschyle et de Prométhée.
Lorsque nous avons commencé de tourner ce film sur Rembrandt, cette promenade imaginaire,
avec Malraux en Hollande. Nous venions d'apprendre la mort d'André Malraux et, curieusement, ce film, ce dialogue entre Malraux et Rembrandt est aussi un dialogue sur la mort. Un dialogue entre la mort et l'art. Car pour Malraux, Rembrandt, c'est un de ces peintres qui réintroduit la métaphysique dans la peinture, mais c'est aussi un de ces peintres qui assure par son œuvre une victoire définitive sur la mort. C'est un grand dialogue, Rembrandt-Malraux, et dans notre série, c'est la première fois qu'il y a cette confrontation entre un peintre et Malraux. Un dialogue direct entre deux hommes qui semblent faits, au-delà des siècles, qui semblent faits pour se rencontrer, pour s'écouter, pour se comprendre. Une phrase de Malraux sur Rembrandt que je trouve personnellement extraordinaire. Lorsque Saskia, la femme de Rembrandt, meurt en 1642 pendant qu'il peint la Ronde de nuit, l'irrémédiable glaive tue le bonheur qui l'eût peut-être fait revenir en arrière, ce bonheur qui séparait Rembrandt de son génie. Encore une phrase de poète.
Peu de vie suggère, autant que la sienne, la présence du destin. Lorsque Saskia, sa femme, meurt, pendant qu'il peint la ronde de nuit, l'irrémédiable glaive tue le bonheur qui l'eût peut-être fait revenir en arrière. Ce bonheur qui le séparait de son génie. Et pour lui, ce pouvoir est peinture, et il en fera désormais la raison d'être de son art.
Juin 1642, mort de Saskia. Tuberculeuse, épuisée par ses grossesses, elle a 30 ans. Malraux entre en pensée dans la maison de Rembrandt.
1642. Rembrandt vient de terminer la ronde de nuit. Malraux s'interroge sur ce tableau énigmatique. Il écrit « Rembrandt ne prosterne rien devant Amsterdam. Et ce n'est pas à Dieu qu'il voue les personnages de la ronde de nuit. On peut douter qu'il ait attendu le malaise irrité de ses modèles pour le savoir. Il est alors en plein succès. Et nul ne mettait en cause sa vie privée. Il s'agissait bien de la signification de son œuvre. Les compagnons du capitaine Koch découvrent avec stupéfaction ces figures qui les dépossèdent d'eux-mêmes. Et Malraux ajoute, vers quoi Rembrandt pousse-t-il cette ronde de nuit et ses héros au visage de terre et sa propre face? Oui, vers quoi? Malraux précise sa pensée. Le conflit fut un conflit d'imaginaire. Le capitaine Koch et ses amis eussent été ravis de ce qu'eût fait d'eux un Titien, même un Titien fort peu réaliste. Titien les eût pourtant introduits dans un monde presque aussi fantastique. Mais ils ne l'auraient pas vu. Venise avait cru reconnaître son propre rêve dans les créations d'un siècle de génie. Les modèles de Rembrandt ne refusent pas leur visage. Rembrandt n'est pas un expressionniste. Ce qu'il refuse, c'est sa peinture. Et vous dites aussi une chose qui m'a beaucoup frappé. Vous soulignez le côté interrogateur de Rembrandt. Vous dites que c'est un homme qui a interrogé notamment toutes les religions. Il a parlé avec les Juifs, il a parlé avec le pèlerin.
Il avait un Bouddha.
Donc il y a une sorte d'interrogation qu'on retrouve dans son visage, dans toute cette série d'autoportraits dont
vous
parlez.
Et dans son art est très puissamment interrogateur.
Rembrandt a interrogé sur Dieu des catholiques, des protestants de toute secte, des musulmans, sans doute le pèlerin russe qu'il a peint. Et les juifs, les rabbins de son quartier. Là où nous sommes.
Ha'akil ha'melech ha'myuchad Yegidun, yegidun Kolam ke'echad Adonam e'echad Ushmo e'echad Lebabot b'choshbam Olam banui
Et cependant, il est très croyant.
Ça va bien ensemble. Un mystique, extrêmement mystique, peut avoir de la vie une notion de pure apparence. Et tout ça n'est pas sérieux.
C'est pourquoi vous aimez très souvent le rapprocher de Dostoïevski.
Ah, mais il en est parent à un très haut degré. Et les vies sont évidemment proches.
Surtout quand on regarde peut-être les gravures, le monde obscur. Et vous dites, c'est parce qu'il n'imite pas la lumière qu'il trouve la sienne.
Quand nous parlions du Caravage, le Caravage avait un éclairage à tel point que pour être sûr d'avoir de bonnes sources de lumière, il peignait dans une cave. Et par conséquent, la lumière venait par le soupirail. Donc c'était comme aujourd'hui avec
un projecteur.
Alors que si vous observez la lumière de Rembrandt dans un tableau déterminé, vous vous apercevez que si vous deviez le faire en cinéma, vous ne pouvez pas. Les angles ne sont pas en place, ce sont des ombres absolument arbitraires. C'est-à-dire que son rapport entre les ombres et l'éclair, qui n'est pas celui de la lumière réelle, mais d'une lumière arbitraire, c'est exactement le rapport qu'il y a entre les basses et les aigus dans la musique. Alors, évidemment, il dira que pour les trois croix, c'est la nuit que Dieu fait sur la terre à cause de la mort du Christ. Mais alors pourquoi cette nuit a-t-elle des rideaux qui tombent et ne couvre-t-elle pas la terre? Parce que sur le texte biblique, elle couvre la terre. Mais la vérité, c'est que ça lui était complètement égal. Il avait fait une immense découverte. C'est la puissance émotive de la lumière.
Et oui, nous sommes en ce moment en présence plus ou moins de Rembrandt. Et quand on parle de Rembrandt, bien sûr qu'on pense à Malraux, qu'on pense à Jean-Marie Drault, l'ami Jean-Marie Drault, mais il y a un autre ami à qui je voudrais rendre hommage, si vous le permettez. C'est celui que vous connaissez, qui nous a quittés il y a déjà quelques années, le père Paul Baudiquet, ce fameux Paul Baudiquet. Et son retour du fils prodigue qu'il avait découvert vraiment, mais quasiment fasciné, au musée de l'Ermitage à Leningrad. Et Paul Baudiquet, c'est aussi l'évangile selon Rembrandt. Donc écoutons avec un grand plaisir, beaucoup d'émotion, la voix de Paul.
Rembrandt a commencé par une vie heureuse et comblée. La date charnière, enfin en deux mots, c'est 1642. qui est l'année où il a terminé la fameuse ronde de nuit, la plus grande commande qu'il ait eue jusqu'à cette époque, qui a été plus ou moins, sans faire un scandale de la ronde de nuit, comme on a pu dire, ça a été plus ou moins bien accepté par les commanditaires qui ne se sont pas retrouvés dans la façon dont Rembrandt les a peints. Ça, c'est évident, bon, et on comprend pourquoi, car il les a un peu exécutés, au moins certains. Et puis alors, c'est l'année aussi de la mort de Saskia, sa première épouse. Donc là, il y a une espèce de rupture qui s'amorce. Et à partir de ce moment-là, tout doucement, Rembrandt va entrer dans une façon de peindre différente, car il va peindre, il aura beaucoup moins de commandes, il va peindre davantage en fonction de sa vision intérieure. Ensuite, il va être chassé de sa belle maison qu'il n'a jamais achevé de payer, parce que tout son argent était investi dans des collections, etc. C'est un collectionneur redoutable. Donc il va se retrouver sur la paille, comme on dit, avec sa deuxième épouse Hendrik et son fils Titus, le seul survivant de tous ses enfants. Et il va vraiment connaître là, au début, la misère. Puis petit à petit, retrouver un minimum de bien, comme dirait saint Thomas, nécessaire à la pratique de son art. Et puis finalement, il mourra absolument tout seul, car sa deuxième épouse, Hendrik, meurt en 1663, donc 6 ans avant lui, et Titus mourra 1 an avant lui aussi, donc le 4 octobre 1669, quand je crois on l'a trouvé mort sur son grabat de l'atelier. C'est un homme qui est dans la profonde solitude. D'ailleurs, ses voisins, à l'époque, l'appelaient le hibou. C'est Malraux qui cite ça, parce qu'il ne sortait plus que la nuit. Et Malraux, alors, se laisse emporter, bien sûr, disant « Les imbéciles ne savaient pas qu'ils prophétisaient, car si cet homme ne sortait que la nuit, c'est pas du tout parce qu'il avait honte, mais parce qu'il allait chercher la lumière, justement, au creux même de la ténèbre. » Enfin, c'est la fameuse vie.
La vérité, c'est que ça lui était complètement égal. Il avait fait une immense découverte. C'est la puissance émotive de la lumière.
Et vous dites aussi qu'il appartenait au plus vieux domaine de la nuit, Rembrandt ou la nuit hantée.
La nuit hantée.
Début de la liaison de Rembrandt avec Hendrik Stoffels. Ceux qui entourent Rembrandt croient que ses yeux pièges fixent les apparences les plus secrètes, écrit André Malraux. Mais lui, Rembrandt, il sait qu'il peint pour tout délivrer de la terre. D'où son obsession de la monochromie. Obsession qu'il partage avec un Léonard, avec le Michel-Ange de la Sixtine, avec le Goya de la Maison du Sourd. Rembrandt n'est nullement un coloriste comme les Vénitiens, comme Vermeer. Mais il est le lyrique souverain de quelques couleurs orchestrées et délivrées du réel par le brun de l'ombre.
Et maintenant, un autre hommage à Alain Jaubert. Alain Jaubert, vous savez, c'est celui à qui l'on doit la célèbre série Palette.
En 1428, Masaccio peint des scènes de la vie de Saint-Pierre pour la chapelle Brancacci à Santa Maria del Carmine de Florence. Il se montre parmi les auditeurs du sermon de Pierre. Son biographe, le peintre Giorgio Vasari, rapporte que le portrait a été exécuté à l'aide d'un miroir. Un demi-siècle plus tard, dans une épiphanie où il donne au roi mage les traits de la famille Médicis, Botticelli apparaît en bordure de la Seine. À la même époque, Dürer se peint au centre du martyr des 10 000 chrétiens, ou sur le bord de l'adoration de la Sainte Trinité. Il se prend aussi pour unique sujet. En un siècle, le peintre, artisan anonyme, est devenu un personnage qui traite avec les princes, qui ose se représenter comme eux et qui signe ses œuvres. Au XVIe siècle, l'autoportrait devient un genre à part entière. Raphaël, Parmesan, Titien, Tintoret. Chez Rembrandt, l'autoportrait sera une activité constante. De l'âge de 20 ans jusqu'à sa mort à 63 ans, le peintre dessine, grave et peint son propre visage près d'une centaine de fois. Dès ses premiers tableaux, vers 1625-1626, Rembrandt se montre dans des scènes religieuses. Dans la lapidation de Saint-Étienne, il se représente parmi la foule à côté de son ami, le peintre Jan Leavens. Ou encore, il réalise une scène non identifiée, d'après l'histoire antique ou l'Ancien Testament, derrière le sceptre du roi, le jeune Rembrandt. Plus tard, établi à Amsterdam et vite célèbre, il se peint avec sa jeune épouse Saskia en costume Renaissance. Il lève son verre en riant devant une table servie. Le buveur dans une taverne, une prostituée sur les genoux, illustre la parabole du fils prodigue qui dilapide sa fortune. C'est aussi une façon ironique de se mettre en garde contre les tentations de la richesse. À la même époque, Rembrandt, s'inspirant de Rubens, le peintre alors le plus réputé, peint l'érection de la croix. Il se place au centre parmi ceux qui crucifient le Christ. La peinture de Rembrandt germe et se développe dans un monde marqué par les différentes religions du livre. Si l'homme peut passer pour une sorte de libre penseur assez distant des églises, il est imprégné de traditions spirituelles. Ermite, philosophe, savant, mage, prêtre, prophète, saint, peuplent ses tableaux. En parallèle à ses cohortes de personnages méditatifs, le peintre se représente dans toutes sortes de costumes et de poses, mais dans une lumière particulière qu'il emprunte au Caravage et à laquelle il donne un sens nouveau. Rembrandt se sert du clair-obscur pour suggérer plutôt l'intensité émotionnelle, la révélation, la méditation.
C'est seulement devant leur propre visage que beaucoup d'hommes, même parmi ceux qui aiment la peinture, prennent conscience de l'opération magique qui les dépossède au bénéfice du peintre. Tout artiste qui imposa jadis cette conscience est moderne par quelques points. Rembrandt est le premier maître dont les modèles aient parfois craint de voir leur portrait. La semaine prochaine, nous continuerons ce journal de voyage en direction des arts du monde avec Jean-Marie Drault et Malraux dans le musée imaginaire de Malraux. Je vous conseille, souvenez-vous, le coffret Dorian Film Malraux-Jean-Marie Drault, l'exposition sur les peintres d'Haïti au musée du Montparnasse tout l'été et le coffret chez Montparnasse encore, dites-donc, intitulé « Palette ». Et on a entendu tout à l'heure la voix de son auteur. La semaine prochaine, ce sera tout simplement l'Espagne de Goya. Bon été, bon voyage.
La maison est vide. Saskia morte depuis 16 ans déjà. Rembrandt est ruiné. Les amis s'éloignent de lui, qui vit en concubinage avec une paysanne, la douce Hendrikje Stoffels. Il tourne le dos à ce peintre, qui, inventant un nouveau système de formes, les scandalise, les choque, dans leurs habitudes de bourgeois qui exigent de l'artiste une représentation flatteuse et photographique d'eux-mêmes. Solitude. Silence. Il ne reste plus que l'art. Cette très obstinée interrogation de l'homme. Cette patiente exploration de l'âme. Rembrandt a encore 10 ans à vivre. Les 3 derniers mots du livre sont extrêmement importants. Je trouve que vous parlez là de l'insondable de l'Occident, comme si Rembrandt seul, et peut-être Dostoïevski et d'autres, nous permettaient d'interroger cet insondable que les Occidentaux savent mal interroger d'habitude. C'est un peu ce que vous voulez dire.
Il y en a deux. Il y en a un qui aboutit à la nuit primordiale, bon, c'est le roman de Dostoïevski, et il y en a un autre qui aboutit au firmament, et alors ça donne Shakespeare. L'interrogation est de même nature. C'est toujours regarder le monde comme une fantasmagorie par rapport à quelque chose qui est réalité suprême et inatteignable. C'est le même domaine. Enfin, c'est avec la musique que les choses s'arrangent le mieux, parce que comme on ne demande pas à la musique
de répondre.
Alors, mais évidemment, qu'il y ait un domaine commun entre les scènes capitales de Dostoïevski, le portrait de Cologne, le monologue de la tempête de Shakespeare, et certains passages de Lorin, certains passages de Nietzsche, le début de la cinquième symphonie, enfin, tout ça, c'est simplement évident. Et d'ailleurs, ce dont nous parlons serait beaucoup mieux exprimé si je me taisais, si vous finissiez l'entretien tout simplement en donnant en musique les cinq premières mesures de la cinquième symphonie.
Vous venez d'écouter des extraits du film de Jean-Marie Drault, journal de voyage avec André Malraux à la recherche des arts du monde entier. Cette retransmission vous est proposée par Claude Carrez et Radio Chrétienne Francophone de Lyon, un partenaire de Canal Académie. Jean-Marie Drault a suivi André Malraux dans un tour du monde des arts. Pour poursuivre ce voyage esthétique en compagnie de l'ancien ministre de la Culture, je vous invite à écouter notre deuxième émission consacrée à André Malraux. Partez cette fois-ci pour l'Espagne sur les traces de Francisco Goya. Une Espagne où vous côtoierez les sorcières et monstres oniriques du monde silencieux de Goya, devenu sourd à l'âge de 46 ans. Pour prolonger ce voyage, retrouvez les 13 films de Jean-Marie Drault en compagnie d'André Malraux sur le site dorian-film.com.